Le jour fameux, le jour de colère. Où donc ai-je entendu ça déjà? Ça m'échappe. Le jour de colère devait être celui d'une excursion dans les grottes de la montagne, bien connues pour leur fraîcheur et leur concrétion pittoresque. Tout s'était déroulé si rapidement, si à l'improviste, que beaucoup de gens continuaient placidement à avancer dans l'ornière de leur petite routine. Nous étions arrivés à l'Ange Gardien, tiens, voilà que je me rappelle le nom de l'hôtel, juste au moment où les affaires tournaient mal en Orient, et la brusquerie des premières hostilités, l'incertitude générale, nous avait dissuadés de former d'autres projets. Lord Clandenis n'avait pas répondu à mes lettres ni à mes télégrammes. Je suppose qu'ils furent interceptés par la censure, mais peut-être le Lord était-il absent ou mort. J'aurais dû aussi recevoir un ordre de mobilisation vu mon âge. Je ne reçus jamais rien. Tout était si fou, si stupidement fou. D'ailleurs, tout cela a si peu d'importance à présent, et même alors, vraiment. Qu'importe un geste ou un autre, un endroit ou un autre. Alors, nous voilà partis en excursion. Nous n'étions pas seuls. Nous nous étions joints à une troupe d'une douzaine d'enfants du préventorium conduit par un guide, un garçon de quelque 20 ans, habillé comme l'étaient alors les Boy Scouts. Je suis trop fatiguée pour expliquer ce que c'était. Je vois encore ce grand garçon à lunettes, au visage maigre, au cou cordé sortant de son foulard rouge. Il menait les gosses militairement, aboyant vers eux des injonctions brèves. Il avait l'habitude de faire visiter les grottes, célèbres dans la région. Dès le début de notre séjour, nous avions formé le projet de nous joindre à une expédition de ce genre. Le jour était resplendissant. Nous étions partis de bonne heure pour éviter la chaleur. Après avoir écouté, distraitement, en déjeunant, un journal parlé, dont je ne me rappelle plus bien la dernière phrase, l'Afrique ne répond plus. C'était assez tragique. Mais on était déjà si bien habitués aux nouvelles tragiques, d'ailleurs souvent démenties le lendemain. Aucune idée, aucun soupçon que c'était pour cette matinée que la fin du monde était inscrite au programme. Dies irae. Dies illa. On chantait ça, jadis, quand j'étais petit. Je ne sais plus où, peu. Alors nous voilà partis. Les enfants bavardaient gaiement, les cailloux des sentiers de montagne roulaient sur leurs pieds, les herbes aromatiques des plantes parfumaient l'air. Nous marchions sur une sorte de crête, et des éperons, et des contreforts, couverts d'une végétation rase et rare, s'étendaient à droite et à gauche. Après une heure ou deux passées à dévaler et à grimper, le jardin prit la forme d'un remblai qui se rapprochait obliquement d'une sorte de falaise à pic. C'était là, au flanc du roc, qu'était située l'entrée des grottes. Le talus, qui supportait le chemin d'accès, était en grande partie artificiel. Les premiers explorateurs de ces caves naturelles avaient dû contourner la falaise et se laisser descendre avec des cordes jusqu'à l'ouverture. Charles et Ratbert s'étaient mêlés aux autres enfants, parmi lesquels il y avait une fillette, et bavardaient joyeusement. Je marchais en arrière, seul avec mes pensées, n'ayant que peu de goût pour la conversation du guide. D'ailleurs, je ne pensais pas à la guerre. Je pensais à Biarritz, à Elena Bublko, que j'espérais retrouver en décembre, pitié. Où est-elle, Elena? Ce n'est qu'un nom, des syllabes que seul je sais prononcer et qui disparaîtront avec moi. Et Biarritz? La mer gronde peut-être à des centaines de mètres au-dessus des ruines du casino. La bande joyeuse s'engagea dans la grotte où l'on devait faire un pique-nique avant de reprendre le chemin du retour. Bien qu'elle ait été aménagée, cette caverne, cette série de cavernes plutôt, n'avait pas de gardien permanent, comme beaucoup de grottes célèbres. Je restais le dernier, debout à l'entrée, et considérant l'horizon, il me semblait apercevoir un point noir au-dessus des dernières croupes qui bordaient la vue dans la direction du sud et de la mer. Un point noir qui grossissait, moutonnait, prenait la semblance d'un bouchon d'ouate taché d'encre. « Je crois qu'il va avoir un orage, dis-je au guide, d'un ton indifférent en rentrant dans la grotte. C'est possible, répond-il, avec le calme d'un homme qui a tout prévu. Mais nous sommes à l'abri, et les orages, par ici, ne durent pas longtemps.